Quatrième partie. Chapitre 14. Repentance et restauration d'Israël. Dans ce chapitre, nous assistons à l'heureux dénouement de toutes les voies de Dieu envers son peuple. Le torrent des reproches est tari, la voix des jugements s'est tue, l'appel à la repentance trouve enfin un écho dans le cœur d'Israël. Au jour où le prophète les exhortait à la repentance et à la conversion, et leur annoncer les bénédictions qui en seraient le résultat, chapitre 6, versets 1 à 3, ils n'y avaient pas pris garde. Maintenant que la détresse était venue à son comble, voir chapitre 5, verset 15, leur oreille était enfin ouverte pour écouter la voix de l'Éternel. Israël, reviens à l'Éternel, ton Dieu, car tu es tombé par ton iniquité. Prenez avec vous des paroles et revenez à l'Éternel. Dites-lui, pardonne toute iniquité, et accepte ce qui est bon, et nous te rendrons les sacrifices de nos lèvres. Versets 1 et 2. Israël revient, il apporte des paroles dont nous trouvons si souvent l'expression dans les psaumes, psaume 103 verset 2, 130 verset 3, 51 verset 1 à 17, 69 verset 30, etc. et qui maintenant sortent de bouche sans fraude. Le pardon complet, le pardon de toute iniquité, voilà ce que demande le cœur convaincu de péché et attiré par la grâce. Dieu peut accepter ce qui est bon, ce qui est selon lui et selon ses pensées, la repentance d'un peuple qui vient à lui confessant ses péchés. Ainsi, le Seigneur s'associait avec les excellents de la terre qui venaient au baptême de la repentance. Mais en les recevant ainsi, Dieu acceptait ce qui était bon, un état dans lequel le péché n'entrait plus pour rien, fruit de l'œuvre expiatoire de Christ, accomplie à la croix, et que Dieu accepte comme nous justifiant pleinement. S'il en est ainsi, son peuple peut entonner la louange. Il ne s'agit plus pour Israël du sang de taureau et de bouc, qui ne peut ni ôter son péché, ni le faire agréer de Dieu, mais des sacrifices, ou taureaux, de ses lèvres. Le fruit de lèvres qui bénissent son nom, le sacrifice de louange, est la seule offrande à lui présenter désormais, car le sacrifice expiatoire a été offert une fois et a satisfait pour toujours les exigences de la sainteté divine. La Syrie ne nous sauvera pas. Nous ne monterons pas sur des chevaux. Israël ne cherche plus la protection d'un monde ennemi et ne se fie pas à l'énergie de la nature pour échapper au mal ou pour lui tenir tête. Nous ne dirons plus « notre Dieu » à l'œuvre de nos mains, car, auprès de toi, l'orphelin trouve la miséricorde. Verset 3. Comment les veaux de Bethel seraient-ils encore les idoles du cœur? Dépourvus de tout appui, de tout secours humain, ce peuple affligé, sans aucun lien qui le rattachât à Dieu, cet orphelin, ce Lo Ami et ce Lo Rukama, l'a rencontré, lui, et les trésors de son cœur pour des êtres dénués de tout. Un père au lieu d'un juge, la miséricorde au lieu du jugement. Ce dernier passé, l'amour seul subsiste. Tout ce passage est bien l'œuvre de la grâce dans le cœur, l'histoire de toute âme d'homme, de tout pécheur, revenant à Dieu par la repentance, que ce soit au jour actuel, au jour d'autrefois, ou en un jour à venir. Sans tarder, versets 4 à 7, Dieu montre ce qu'il sera pour eux quand ils auront pris avec eux des paroles pour revenir à lui. Je guérirai leur abandon de moi, et je les aimerai librement, car ma colère s'est détournée d'eux. Je serai pour Israël comme la rosée, il fleurira comme le lys, et il poussera ses racines comme le Liban. Versets 4 et 5. Dieu ôtera toutes les conséquences de leur abandon de lui et remplacera leur misère par les bénédictions d'une vie nouvelle. Il pourra les aimer librement. Cet amour avait toujours existé dans son cœur, car il est l'essence même de Dieu, mais avait été entravé dans ses manifestations par leur infidélité, leur dureté de cœur et les jugements terribles qu'il avait été obligé de leur infliger. Dieu sera pour Israël comme la rosée, un rafraîchissement céleste dont la personne bénie de Christ sera la source. Son peuple fleurira comme le lys, emblème de grâce, de beauté, parure glorieuse de la terre. Il poussera ses racines comme le Liban. Remarquez le rôle du Liban dans toute cette scène. Il est le symbole de la stabilité du règne de Christ. Comme les cèdres majestueux qui recouvrent cette montagne, ainsi Israël étendra ses racines pour ne plus jamais être abattu. Ainsi, ses rejetons s'étendront et sa postérité occupera la terre. Mais son parfum sera aussi, comme le Liban, parfaitement agréable au roi, son bien-aimé. Cantique des Cantiques, chapitre 4, versets 10 et 11. Enfin, leur renommée sera comme le vin du Liban, source de joie pour le monde entier, d'une joie établie sur un règne consolidé à jamais. Versets 5, 6 et 7. Ils auront encore, dans cette scène nouvelle, la magnificence de l'olivier. Greffé de nouveau sur son propre tronc, Israël paraîtra dans la beauté première de sa royauté et de sa sacrificature. Zacharie 4, verset 3, Apocalypse 11, verset 4. Symbole de paix pour la terre renouvelée. Comme jadis, la feuille apportée par la colombe de Noé après le déluge. Genèse 8, verset 11. Aussi reviendra-t-on s'asseoir sous son ombre, verset 7, et chercher auprès de lui une protection offerte à tous. Ils feront vivre le froment et fleuriront comme la vigne. Il y aura abondance de fruits. Voir chapitre 2, verset 22. Et une nouvelle floraison de la vigne du Messie, dégageant le parfum du renouveau. Note 1. Notons la présence ici de trois arbres, figure d'Israël, introduits dans les bénédictions millénaires. Ce sont le cèdre, l'olivier et la vigne. Le cèdre. La montagne du Liban est, comme nous l'avons dit, le symbole de la stabilité du règne de Christ. Les cèdres qui la couvrent sont la figure d'Israël, autrefois détruit par les nations, Ésaïe 37, verset 24, maintenant rétabli dans sa puissance et sa gloire. Ce même Israël fera partie intégrante de la maison de l'Éternel. Voyez le temple et la maison du Liban sous Salomon. L'olivier. Il est la figure du résidu d'Israël, hanté de nouveau sur le tronc des promesses, reçu selon l'élection de la grâce, et restauré après la chute des nations. Ce résidu formera l'ensemble du peuple sous le sceptre du Messie après la destruction des Juifs apostats. La vigne. Elle est l'image d'Israël restauré en vertu de son union vitale avec Christ, le vrai cep, et capable, après avoir été jadis détruit comme une vigne stérile, de porter désormais du fruit pour Dieu. Détail remarquable. Le figuier, si souvent mentionné dans l'Écriture comme symbole de la nation juive, est passé ici sous silence, la sentence définitive ayant été prononcée sur ce peuple, « Que jamais aucun fruit ne naisse plus de toi. » Matthieu 21, verset 19. Cela n'empêche pas le figuier d'être au même titre que la vigne un emblème du repos et de la prospérité millénaire. Michée 4, verset 4, Zacharie 3, verset 10, 1 Roi 4, verset 25. Fin de la note. Telles seront les bénédictions millénaires qu'apportera la repentance d'Israël. Le verset 8 nous fait assister à un échange délicieux de pensées entre l'Éternel et Éphraïm, genre de conversation souvent présentée dans certains psaumes que j'ai appelés, autre part, les psaumes de communion, et qui montrent un accord parfait entre les interlocuteurs. Éphraïm dira: qu'ai-je plus à faire avec les idoles? Israël a trouvé le Christ, son Sauveur et son Roi. Les faux dieux ne jouent plus aucun rôle, ni dans son cœur, ni dans sa vie. Il en est toujours ainsi lorsque l'âme a trouvé un objet qui s'est emparé d'elle et auquel elle attache plus de prix qu'aux misérables vanités de ce monde. Moi, dit le Seigneur, je lui répondrai et je le regarderai. Lui sera le Dieu auquel Éphraïm aura affaire, son vrai Dieu. J'exaucerai, dit-il, toutes ses demandes. Je l'illuminerai du regard de ma face, selon son désir. Lève sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. Psaume 4, verset 6. Sous ce regard, Éphraïm dira: moi, je suis comme un cyprès vert. Le cyprès, dont le feuillage ne se flétrit point, croît sur le Liban avec le cèdre et fait, avec ce dernier, l'ornement du temple de l'Éternel. 1 Roi 5, versets 8 et 10, 6, verset 15, 2 Chroniques 2, verset 8. Stabilité, témoignage non interrompu, sainteté, parure incorruptible du sanctuaire, proximité de l'Éternel. Que de pensées bénies évoque ce seul nom. Et le Messie répond : De moi provient ton fruit. Douce, indicible parole finale, comme elle convient à son propre cœur et à celui d'Israël restauré. Christ veut avoir le dernier mot. Il se réjouit en voyant chez son peuple le fruit de sa grâce. Il verra du fruit du travail de son âme et sera satisfait. Ésaïe 53, verset 11. Toute cette bénédiction n'a pas d'autre origine. Rien ne vient de l'homme, tout provient de Dieu. Ah, comme le cœur de ses bien-aimés pourra répondre dans une adoration muette, « Toutes mes sources sont en toi. » Psaume 87, verset 7. Le verset 9 clôt et résume toute la prophétie d'Osée. Qui est sage? Il comprendra ces choses. Et intelligent? Il les connaîtra. Car les voies de l'Éternel sont droites, et les justes y marcheront. Mais les transgresseurs y tomberont. N'est-ce pas la conclusion du livre? Il faut, pour le comprendre, une sagesse et une intelligence données d'en haut, mais que Dieu ne refuse pas aux siens, tandis que les sages de ce monde traitent précisément ce prophète d'incompréhensible et d'insensé. Cependant, le résumé en est aussi simple, aussi élémentaire que possible. Ce sont les voies de Dieu. Elles sont droites. Elles sont le chemin du juste et sa sauvegarde. Elles sont la perte et la ruine des transgresseurs, de ceux qui refusent de se soumettre à la volonté de Dieu. Tel est ce livre merveilleux. Dans sa fougue, il attaque inopinément les âmes pour les frapper et les convaincre. S'il déborde un flot pressé pour manifester le mal, c'est afin d'atteindre les consciences. Un large souffle d'amour passe à travers ces strophes indignées. La révélation de la personne, de l'œuvre de Christ, y coule comme un fleuve paisible et souterrain qui tend au même but que les flots tumultueux de la surface. C'est dans ce fleuve que Dieu fait tremper les racines des bénédictions futures, mais le mépris de cette eau vive rend la sentence du juge irrémissible. Il est impossible, comme nous l'avons dit en commençant, d'étudier Osée sans le paraphraser, tant les pensées y sont en apparence distantes et comme étrangères les unes aux autres. Mais le Saint-Esprit nous en dévoile les liaisons, et les découvertes que nous faisons sous sa direction augmentent encore l'intérêt de ces admirables chapitres. Sans doute, ils n'ont pas, pour nous exprimer ainsi, le courant vaste et majestueux qui caractérise Ésaïe, plus que tout autre prophète, quoique l'un et l'autre aient l'Assyrien en vue. Le sujet, comme nous l'avons vu, est ici plus restreint. Les nations qu'Osée met en scène sont uniquement l'Égypte et l'Assyrie. Le peuple a beaucoup plus souvent le caractère d'Éphraïm que celui de Juda. C'est que l'heure de la rétribution a sonné pour les 10 tribus, et que plus d'un siècle attendra encore le glas annonçant la fin de la maison de David. Après les violences de l'orage, entremêlées çà et là de quelques rayons de soleil, l'œil finit par se reposer sur la scène paisible dans laquelle le peuple, restauré par la grâce, aura retrouvé la communion avec son Dieu sous le sceptre du Messie.